ndicho kiti cha amani, kimya na upendo ni sabuni ya roho.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Auditrices et auditeurs de Radio Mandeléo, merci encore une fois de choisir votre radio pour vous informer. Ce journal est présenté par Sostène Birale et mis en onde par Alain Zahar. Le président congolais Félix Tshisekedi a tendu la main ce jeudi 9 octobre 2025 à Bruxelles à son homologue rwandais Paul Kagame et pour travailler ensemble pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Le sixième round des négociations entre le gouvernement congolais et l'ABCM23 aura lieu la semaine prochaine. Ce rendez-vous avait été reporté notamment pour cause du calendrier chargé du médiateur qatari. Et en page de sport, la République démocratique du Congo affronte le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde ce vendredi. Le détail de ce radio-journal. Et prenant part ce jeudi 9 octobre 2025 à Bruxelles, à l'ouverture de la deuxième édition du Global Gateway Forum, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a surpris dans un ton inhabituel depuis l'escalade de la guerre dans l'est du pays. Il a appelé son homologue rwandais Paul Kagame à travailler ensemble. Je vous propose de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples et nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci, a-t-il dit à son homologue rwandais assis en face de lui. Et pour le chef de l'État congolais, seuls lui et Kagame sont en mesure de résoudre les différends entre leurs deux nations. Et le sixième round des négociations entre le gouvernement et l'ABCM23 aura lieu la semaine prochaine. Et prévu pour cette semaine, ce rendez-vous a été reporté notamment pour cause des calendriers chargés pour les médiateurs qataris. Plus de détails avec Alain Kabika.
Ces rounds, à en croire le gouvernement qatari, est une occasion d'avancer sur les textes qui doit définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent dans un contexte toujours marqué par des combats sur les terrains, notamment au nord et sud Kivu. Des réunions de travail vont commencer la semaine prochaine au Qatar, avec autour de la table des délégations du gouvernement congolais et celle de l'AFC-123 avec pour objectif la finalisation du mécanisme et du cessez-le-feu et concrètement comment il sera appliqué sur les terrains, quel comportement adopter et qui garantira le respect de cet accord. Les discussions porteront aussi sur un projet d'accord de paix préparé par la médiation qatarienne. Un responsable proche des négociations parle de la présence de plusieurs partenaires internationaux, preuve d'un large soutien international à ces processus, ajoutent ses responsables contactés par RFI. Le Qatarien en tant qu'hôte assureront la coordination et les soutiens logistiques, ajoute la même source. Rappelez-vous que ces discussions font suite à celles d'août dernier, toujours à Doha, qui portaient notamment sur les échanges des prisonniers.
Le débat sur l'application de la peine de mort aurait fait surface avec la déclaration des archevêques et évêques catholiques à la suite de la condamnation de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, par la haute cour militaire. En marge de la célébration de la journée internationale contre la peine de mort, ce vendredi 10 octobre, les avis divergent autour de l'opportunité ou non de l'application d'une telle peine. Plus de détails avec Espedi Kialou.
Le gouvernement congolais avait décidé en mars 2024 par le biais du ministère de la Justice de la levée du moratoire interdisant l'exécution de la peine de mort. La décision avait été prise sur plaidoyer du vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, pour juguler selon lui les trahisons dans les rangs des forces armées de la RDC. Une année après cette levée, certaines personnes valident la position de la levée de ce moratoire et saluent l'application de la peine de mort. Selon Maître organisé pour l'épauler, la peine de mort permettra de réduire la criminalité en RDC.
Avec ce rétablissement de la peine de mort, nous pensons que les grands criminels vont avoir peur et après demain, quand nous allons assister aux exécutions, les criminels vont s'amender.
Pour Epimak Koko, défenseur des droits humains et leader du comité de suivi des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, CMPDDH en sigle, il est inopportun d'appliquer cette peine en RDC, expliquant qu'après son exécution, aucune correction juste n'est envisageable. Avec les erreurs judiciaires récurrentes imputables à la justice congolaise, le risque est d'assister à l'exécution des innocents, s'inquiète Epimak Koko.
Il y a réellement des craintes et des risques que la peine de mort soit appliquée à des gens par erreur. Et une fois qu'on l'aura appliquée, vous savez, il n'y a pas à corriger. Quand on exécute une personne, on l'exécute. Si demain on va découvrir qu'on s'était trompé, il n'y a plus rien à corriger. Ce sont là maintenant les craintes que nous avons. Les risques d'erreur sont grands. Tout le monde sait comment la justice fonctionne chez nous. Pas suffisamment de moyens pour mener des enquêtes. Parce que ce sont les enquêtes judiciaires qui mettraient les personnes poursuivies à l'abri des erreurs judiciaires.
Les archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, ont rappelé que la constitution de la RDC consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. L'exécution de la peine de mort, soutient-il, est une violation du droit à la vie prôné par l'Église catholique. Plusieurs organisations comme la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH au niveau national et l'Union européenne au niveau international ont exprimé sans équivoque leur opposition à l'exécution de cette peine. Il s'agit de préciser que la journée internationale contre la peine de mort est célébrée chaque année le 10 octobre et cela depuis 2003. Elle vise à sensibiliser le public à l'abolition universelle de la peine de mort.
Et l'Union pour la Nation Congolaise, INC, suspend Norbert Yabentaitunda de son poste de secrétaire interfédéral du parti au Sud-Kivu. Il lui est reproché d'avoir participé à une atelier organisée, soit disant par l'HCM 23 à Bukavu. Plus de détails avec Hélène Bougiri.
Dans un communiqué officiel, l'UNC rappelle à l'opinion qu'elle n'a mandaté personne pour prendre part à une telle activité et condamne les agissements de son frétaire interfédéral. Certains acteurs sociaux et politiques, ainsi que les organisateurs de la dite activité, jugent infondée cette décision basée sur des considérations subjectives. Beaucoup rappellent, en premier lieu, que l'activité à laquelle l'UNC fait allusion n'a nullement pas été organisée par l'AFCM 23, mais plutôt par les cadres indépendants des réflexions et d'actions pour le devenir de la RADC, CIRAD RADC. A ce titre, cette structure de la société civile a invité la crème intellectuelle, précisément les médecins, acteurs politiques, avocats, professeurs d'université, défenseurs des droits humains et acteurs de développement pour une réflexion autour de l'idée du fédéralisme, ajoutent ces analystes. Au-delà des scientifiques, les autorités de l'AFCM 23 ont également été conviées à l'activité pour donner leur perception de l'idée du fédéralisme, clarifie un des animateurs du CIRAD que Radio Maindileo a contacté. Ce dernier indique que l'atelier a permis à toutes les tendances de donner en toute indépendance leur point de vue sur l'idée du fédéralisme, ce qui a permis de récolter non seulement les avis convergents, mais aussi les avis qui s'opposent à cette dynamique. Brandissant l'invitation adressée à Norbert Yabé, des analystes précisent qu'il a été associé à la réflexion comme acteur de développement, défenseur des droits humains et des surcroît, ancien président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Sud-Kivu et non comme délégué de l'UNC. Cette tendance a indexé que tout celui qui se retrouve dans des mêmes endroits que certains animateurs du M23 est un frauduleux et dangereux qui risque et d'occasionner des jugements irrationnels, s'inquiètent les mêmes analystes. Ces derniers rappellent que pour des raisons professionnelles et consorts, il est tout à fait normal de se retrouver aux côtés des autorités de l'AFCM 23, auprès desquelles des services peuvent même être sollicités, considérant qu'ils administrent une grande partie de la province du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Une autre frange dans la liste, trouvant cette décision un agenda caché au sein de l'UNC visant à priver les concernés du droit de siéger à l'Assemblée nationale comme premier suppléant des Vital Kamerhe au cas où ces derniers venaient à renoncer à ses postes après avoir été avancés du perchoir de cette institution. D'aucuns estiment que cette décision constitue un précédent fâcheux qui pourrait priver aussi plusieurs personnes de leurs droits, particulièrement celles qui sont dans les zones sous occupation de l'AFC M23 dans un contexte où la cohésion nationale est pourtant recherchée. En conclusion, d'autres estiment que le secrétariat général de l'UNC devrait revenir sur cette décision et invite les uns et les autres à faire preuve de discernement, investigation et analyse avant d'indexer souvent à tort X ou Y d'être des mèches avec telle ou telle tendance.
La suite de ce radio-journal. Trois présumés voleurs ont été brûlés vifs et puis enterrés par la population en colère dans la journée de jeudi 9 octobre 2025 dans le groupement d'Ishungu en territoire du Cabaret. Et ces présumés voleurs ont été attrapés par une équipe qui assurait la patrouille diurne. Amenés au bureau du groupement d'Ishungu, ils ont été pris de force par une foule en colère qui les a achevés à l'aide des coups avant de les brûler vifs. Ces derniers ont été appréhendés et possédant des faux billets de $100 américains, un serpent dans leur mallette ainsi que des armes blanches telles que des couteaux et des marteaux, à en croire Rahaluka, chargé des informations au sein du Radio Club, partenaire de Radio Mandeleo dans l'axe Burava. Ceci intervient après que plusieurs cas d'insécurité, viols et vols à main armée ont été rapportés dans cette partie du territoire de Cabaret. Le dernier est survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, dans des bandits ont opéré durant plusieurs heures et jusqu'à tuer un jeune garçon de la place, violer des femmes et emporter plusieurs biens de valeur. Et dans le groupement de Bourale en territoire de Walungu, trois personnes sont mortes dans des circonstances macabres. En effet, il s'agit d'un père de famille qui s'est réveillé et commencé à battre ses enfants et jusqu'à faire recours aux couteaux et pilons. Alerté, un voisin est venu au secours de ses enfants, mais lui aussi a reçu un coup de pilon sur la nuque. Grâce à l'intervention d'autres voisins, les deux enfants blessés et le voisin venus au secours ont été acheminés dans une structure médicale de la place, en croire Joseph Babouine, président de la société civile à Bourale. Non satisfait, ce père de famille s'est rendu dans cette structure médicale et s'en est pris aux agents commis à la sécurité. Et c'est dans cette circonstance que des habitants ont dû intervenir jusqu'à mettre fin à sa vie. Mais quelques minutes plus tard, l'un de ses enfants blessés et le voisin est venu le premier au secours de cette famille ont rendu l'âme des suites de leurs blessures, indique Joseph Babouinet, et qui indique que le motif de cette violence est resté inconnu et que ces événements ont placé l'entité dans une forte désolation. Et plus de 800 familles restent sans abri après l'écroulement de leur maison dans le groupement d'Itara Luvungi, en territoire d'Uvira. Et parmi les maisons écroulées figurent des écoles, en plus d'autres dégâts, notamment des champs dévastés et plusieurs biens de valeur emportée. Ceci après des fortes pluies qui se sont abattues dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Ce bilan est livré par la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira dans un entretien avec Radio Mandeleo ce jeudi 9 octobre 2025. Le coordonnateur de cette structure citoyenne, Biamungu Chamamba Paul, a expliqué que l'un des quartiers les plus touchés, c'est Bandari, où l'on signale l'avancée inquiétante des éboulements dus à la mauvaise gestion des eaux de pluie. Sur place, les écoles primaires Mazé et Kalende se sont également écroulées, une situation qui oblige les élèves à rester à la maison. La nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira demande aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux habitants du milieu qui traversent une période difficile. Biamungu Chamambapol au micro de notre correspondant à Kamanyola, Wendo Joey.
Une fois de plus, la population de la localité de Luvungi, un groupement d'Itara, en chefferie de Bafuliru, a été frappée. Ici, on a compté, donc un bilan provisoire, plus de 800 maisons écroulées, dont des écoles qui sont déjà prévisibles. Les dégâts sont vraiment énormes. Ces deux écoles, nous pouvons citer l'école Kalende et de Mazé, et nous demandons maintenant à l'autorité provinciale de réagir rapidement parce que cette population est frappée d'abord de la vulnérabilité des guerres et en plus vient s'ajouter des catastrophes naturelles. Cela montre combien de fois cette population est exposée en danger. Aux humanitaires de réagir rapidement et donner des réponses à des préoccupations, des conditions humanitaires qui sont vraiment touchées.
Et des pluies diluviennes qui s'abattent depuis près de deux semaines sur l'axe Kabare Nord, notamment entre Katana et Kabamba, et jusque dans les territoires du Calais, continue de provoquer des dégâts considérables. Et selon des acteurs de la société civile, et plusieurs champs et plantations ont été détruits, des maisons emportées et certaines routes rendues totalement impraticables. Plus de détails avec Omer Moudé-Kereza.
C'est à l'est intervient au lendemain de nouvelles intempéries, particulièrement violentes, dans cette partie de la province du Sud-Kivu. Les zones les plus touchées sont notamment Bouini, Nakishi, Chibonabosi et Munanira dans le village de Kadjuchu, où des pluies torrentielles ont causé de fortes inondations, ravagé des cultures et endommagé de nombreuses habitations. Suite à cette situation, la population locale est exposée à des risques d'une insécurité alimentaire croissante, alerte les mêmes sources. Enoch Nachea, acteur de la société civile de la place, on dit que ces pluies ont non seulement détruit des champs, mais aussi rendu les tronçons routiers Katana-Kabamba complètement impraticables, tout comme les tronçons allant de Kabamba jusqu'à Irambo et Luzira, dans le territoire de Kalehe. Ils plaident pour une intervention urgente des organisations humanitaires, afin d'assister les populations en détresse. Enoch Nachea.
Les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'étendue du groupement d'Irambi Katana, territoire de Kabare, ont causé d'énormes dégâts matériels. Dans le village de Kadjuchu, ces pluies ont dévasté beaucoup de champs et des maisons inondées à Bouhini, Nyakishi, Chibonabosi et Munanira. Suite à cette situation, la population de Kadjuchu est exposée à la famine. Nous plaidons auprès des organismes humanitaires de penser à cette population en fait de la soulager.
Dans le territoire voisin de Calais, la situation est tout aussi préoccupante. La portion de la route nationale numéro 2, reliant Bukavu à Goma, traversant le territoire de Kalehe, se trouve dans un état de délabrement très avancé. À Tchofi, par exemple, dans le groupement de Mbinga Sud, chefferie de Bouavu, la rivière Kalunga est sortie de son lit, inondant la chaussée. Des fissures profondes sont visibles, menaçant de couper la route en deux, ce qui met en danger les piétons, passagers et les motocyclistes. Les habitants déplorent l'absence de machines et de moyens pour entreprendre les réparations, alors que des carrières de pierre et de sable se trouvent à moins de 20 mètres de la rivière Kalunga.
Toutes les boissons fortement alcoolisées et fabriquées et vendues sur l'ensemble du groupement de Mité en territoire des Cabarets seront détruites à dater du samedi 11 octobre 2025. L'annonce est du chef de groupement de Mité Chirimwami Kwigomba Mambe dans un entretien avec Radio Mandela au jeudi 9 octobre 2025. Il justifie cette décision par le fait que ces boissons sont à la base de l'insécurité dans des villages de son entité. Outre l'insécurité, les chefs de groupement de Miti ajoutent que ces boissons constituent également un poison pour ses consommateurs, d'où la nécessité de les détruire pour la protection des vies humaines. Le chef du groupement de Miti, Chirimwami Kwigomba Mambe, rassure que cette opération va se dérouler en collaboration avec les chefs de village et les présidents des jeunes de chaque village. On l'écoute.
Nous sommes en train de passer dans une situation tellement difficile par rapport aux boissons fortement alcoolisées qui tuent la jeunesse et qui même créent l'insécurité dans nos entités respectives. Voilà qu'un chef coutumier, il est considéré comme l'église au milieu du village. Il est là pour protéger et défendre sa population. On a pris cette initiative avec la jeunesse que le samedi, on va exécuter ce projet de confirmer que cette boisson a été détruite au niveau de tous les villages. La jeunesse sera accompagnée par chaque chef de village de passer dans son entité. Ces gens sont déjà identifiés et comme nous sommes accompagnés par notre hiérarchie, j'espère bien que nous allons tout le monde réussir ce projet parce que vous allez voir, le jeune qui est en train de consommer cette boisson-là, dans peu de temps ou bien quelques jours, il va changer la morphologie, il va être comme un blanc, il y a les joues gonflées comme ça, la chevelure qui va changer, après un temps, il y a la mort. Nous allons confirmer que le samedi, le groupement est nettoyé, pourquoi pas tout cabar.
C'était le chef de groupement de MITI au micro de Radio Mindeléo. Et les cadres de concertation territoriale de la société civile de Mwenga dénoncent la destruction des deux réseaux d'eau potable alimentant les communautés des aires de santé de Tousessoa et Kalolé dans la zone de santé de Mwenga. Dans une dépêche rendue publique et consultée par la rédaction centrale de Radio Mindeléo, le jeudi 9 octobre 2025, cette structure indique que des personnes non identifiées ont saboté sans motif les installations des Lulumunyu et Kassanda, privant ainsi plusieurs familles d'eau potable. Plus de détails avec Omer Moudekereza.
Le réseau Lulumunyu dessert les villages Bondeko et Kalende, tandis que celui de Kassanda, construit par les CICR en 2009, approvisionne Mwenga Centre et 8 villages environnants, dont Kalole, Ilinda, Busawa, Mukingi, Musika, Cité Ilunga, Kitemba et Bulenzi 2, précise le cadre de concertation territoriale de la société civile de Mwenga. À en croire son coordonnateur intérimaire, Henri Mukamba Milenge, une grande partie des tuyaux ont été coupés, déracinés et emportés. Il encourage néanmoins le bureau local du service public de l'eau qui est déjà à pied d'œuvre pour tenter de réparer les réseaux endommagés. Henri Mukamba Milenge appelle la population bénéficiaire à protéger ses patrimoines communautaires, vital pour sa survie, et demande aux autorités locales de sécuriser les installations, tout en sanctionnant les auteurs de ces actes inciviques.
Un nombre important de ces tuyaux ont été coupés, déracinés et emportés par ces personnes de mauvaise volonté, laissant ainsi ces communautés dans les difficultés d'accéder à l'eau potable et courir les risques de développer les maladies d'origine hydrique pouvant engendrer l'éclosion d'une épidémie suite au manque de cette denrée très capitale.
Il sollicite enfin l'appui des partenaires techniques et financiers pour financer une troisième adduction d'eau à Mwenga Centre, devenue une urgence face à l'accroissement de la population et au manque d'accès à l'eau dans plusieurs villages.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Mindeléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La République démocratique du Congo affronte le Togo ce vendredi 10 octobre dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La victoire est l'option préférentielle et pour les Léopards de la République démocratique du Congo et qui veulent finir parmi les 4 meilleurs et deuxièmes de tous les groupes confondus pour rester dans la course aux barrages intercontinentaux. La République démocratique du Congo a quitté ses quartiers après la victoire du Cameroun devant l'île Maurice le mercredi dernier. Seule la victoire permettra aux Léopards de garder espoir d'une qualification. Après 3 jours de stage à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Léopards sont arrivés à Lomé mercredi avec la détermination de l'emporter. Ce jeudi, ils ont participé à une séance de reconnaissance du terrain l'après-midi sous la conduite du sélectionneur Sébastien Desabre. Le match proprement dit est prévu au stade Kenge de Lomé à partir de 15h heure de Bukavu. Après cette rencontre, la République démocratique du Congo retournera à Kinshasa pour y accueillir les Soudans le 14 octobre prochain. Et c'est la fin de ce radio-journal, un radio-journal qui était présenté par Sosten Virali. Restez branchés sur les antennes de votre radio.